Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Sucré. Je suis Pauline et je présente exceptionnellement l'épisode aujourd'hui à la place d'Alix. Nous avons des chroniqueurs qui sont à distance du fait de contrôles, révisions partielles et autres réjouissances. Néanmoins, impossible de ne pas parler de cinéma pendant une semaine et nous avons décidé de quand même vous proposer un épisode monté à distance et donc pas en studio de la part de nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on va s'attaquer à trois films très différents. Alix va commencer avec une chronique de Blue Giant, un dessin animé. Juliette va continuer avec la critique du successeur de Xavier Legrand qui est sorti fin février dernier, il me semble aux alentours du 21 février. Et pour ma part, je vous parlerai de Boléro d'Anne Fontaine et aussi du dernier film de Michael Mann sorti sur nos plateformes qui s'appelle Ferrari. Voici donc la chronique d'Alix sur Blue Giant de Yuzuru Tachikawa.
Salut tout le monde, c'est Alix et aujourd'hui, moi, je vais faire ma chronique sur Blue Giant qui a été réalisé par Yuzuru Tachikawa et qui est sorti le 6 mars, donc c'est assez récent. Pour vous faire le topo rapidement, on suit l'histoire de Dai, un saxophoniste talentueux qui quitte sa ville de province pour s'installer à Tokyo pour poursuivre sa carrière musicale. Son but, c'est de devenir le meilleur jazzman du monde, donc... Oui, il a des ambitions. Il va décider de former Jazz, un groupe avec Yukinori, donc un pianiste particulièrement doué, et Shunji, le coloc de Dai en fait, qui débute dans la batterie. Donc on a des personnages assez différents et qui vont quand même avoir un objectif commun, c'est se produire au Soblu, c'est-à-dire le meilleur club de jazz du Japon. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Blue Giant, et la première chose à dire, c'est que c'est l'adaptation d'un manga qui a été créé par Shinichi Ishizuka, pardon. Donc, ce qui a vraiment forcément créé beaucoup d'attentes de la part des fans, et ça a été un réel challenge de mettre en mouvement, et surtout en musique, un manga sur le jazz, donc qui n'avait pas de son. L'autre challenge évidemment c'était de réduire en 2 heures toute une saga qui est en plusieurs dizaines de tomes d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, pour moi qui n'avais pas du tout lu le manga, ça a été extrêmement convaincant et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme. D'abord parce que le scénario est très très bon, ce qui pouvait être assez classique, c'est-à-dire des jeunes qui vont fonder un groupe de musique et qui vont essayer de percer, finalement ça aboutit à quelque chose de travaillé et de complexe, et surtout de par la fameuse relation entre les membres du groupe dont je vous parlais en introduction. En fait, Dai, qui fait du saxophone que depuis 3 ans, il a un talent qui est totalement inné. Yukinori, qui travaille sa technique au piano depuis son enfance, il parvient jamais à trouver vraiment son style. Et Shunji, il développe un réel syndrome de l'imposteur face aux monstres du jazz qui sont devant lui, quoi. Donc en fait, cette relation qui aurait pu être lisse, elle va être hyper, hyper complexe, hyper sympa. Et ça va créer de très beaux rebondissements, un rythme qui va être soutenu. Et en fait, aucun plan, aucune scène ne va me sembler inutile. Malgré le fait qu'on occulte une bonne partie du manga d'après ce que m'a dit un pote lecteur, le film reste fluide et particulièrement efficace et convaincant en fait. L'autre chose vraiment important à dire sur ce film, c'est évidemment la réalisation. Personnellement, moi j'ai trouvé qu'il y avait une petite inspiration de Makoto Shinkai, donc à qui on doit Your Name en partie. Avec des beaux jeux de lumière, des beaux décors qui sont colorés, des mouvements fluides et toujours cette lumière un petit peu pétante qui rapporte beaucoup de modernité je trouve à l'animation, donc c'est vraiment super. Moi j'étais allée voir le film parce que j'étais tombée sur Instagram sur un extrait de la scène finale, donc je m'étais fait un poil spoiler. Mais c'était pour la bonne cause, parce que c'était vraiment magistral. Au lieu d'avoir des plans qui sont vraiment peu intéressants avec juste les 3 jeunes sur scène, on arrive à partir dans des trips qui sont psychédéliques à chaque morceau, à chaque représentation. Tout va extrêmement vite, on est bombardé de couleurs, de détails, tout ça pour nous permettre vraiment de ressentir juste un tout petit peu l'intensité des émotions que les musiciens ressentent quand ils improvisent. Donc là pour le coup, chapeau, parce que c'est une totale réussite, c'est vraiment excellent pour ce coup là le gros point négatif pour moi du film, et j'ai été vraiment déçue, c'est l'utilisation scandaleuse de la 3D, de la CGI. Ben, côté de passages animés qui sont magnifiques, dont je vous parlais tout à l'heure, ben, on a des plans qui sont littéralement immondes, avec ben, juste les personnages en vieille 3D, pixelisée. Je ne sais pas si c'est par manque de temps ou par manque d'argent, mais il y a des scènes où juste le pianiste est super bien dessiné, et puis d'un seul coup, il y a un gros plan sur ses doigts qui joue sur le piano. C'est des bâtonnets, quoi, donc c'est vraiment pas supportable. Je pense que la CGI, elle aurait pu être supportable justement si le film en lui-même était moyen et l'animation basique, mais c'est vraiment le décalage, le contraste avec l'animation sublime qui est pour moi vraiment scandaleux, quoi. Mais malgré tout, malgré cette déception pour la CGI, le film il reste vraiment vraiment bon et rend un hommage sublime au jazz japonais. Et en tant qu'ancienne saxophoniste, bah, j'ai été profondément touchée et ça m'a vraiment donné envie de reprendre la musique en fait. Donc que vous soyez familier avec le jazz ou pas, bah, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est une vraie claque.
Merci beaucoup Alix pour cette chronique qui donne carrément envie d'aller voir ce film. Je pense que je vais regarder les séances près de chez moi incessamment sous peu. Et on continue avec la chronique de Juliette sur Le Successeur.
Salut à tous, ici Juliette et je reviens à distance pour vous parler du Successeur. C'est un film sorti le 21 février, donc il est toujours en salle normalement, et réalisé par Xavier Legrand. Xavier Legrand, on connaît notamment parce que c'est son premier film, c'était donc Jusqu'à la garde, film qui avait été très remarqué, qui avait eu le César du meilleur film. Donc là, il revient avec Le Successeur, son deuxième film, qui se passe notamment au Canada, avec Marc-André Gondin, Yves Jacques ou encore Anne-Elisabeth Bossé. Et donc dans Le Successeur, on suit Elias, qui est un nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture, marque de haute couture en France. Et en fait, à un moment, il va apprendre que son père est mort au Canada et donc il est le seul de la famille à... Enfin, il est le seul de sa famille à... à pouvoir régler les affaires de succession. Donc il va devoir repartir au Canada. On apprend qu'il y a grandi et qu'il a complètement coupé les ponts avec son père. Et en fait, donc il va découvrir la vie de son père à titre posthume, puisque lui, il avait coupé les ponts avec lui depuis 20 ans à peu près. Et pendant qu'il revient au Canada, il va découvrir quelque chose de particulier en fait sur son père. J'ai pas envie de vous dévoiler ça parce que bah, c'est vraiment le cœur du film, mais moi je trouve que ce film est en fait déjà protégez-vous, enfin c'est pas un film qui est très facile à voir. Dit comme ça, on dirait un peu un scénario de transfuge de classe ou je sais pas quoi. C'est pas vraiment le cas, c'est vraiment un thriller comme on dit. Donc oui, voilà, c'est plus... Moi, je trouve que la force du film, c'est vraiment la tension qui monte, son côté très tragique aussi. En fait, il y a plein de références à des mythes, notamment au mythe d'Oedipe. Il y a un truc où c'est un film qui parle de la violence. En fait, Xavier Legrand, dans son premier film, Jusqu'à la garde, il développait les violences intrafamiliales et dans le couple. Et donc là, il va plus s'attacher notamment à la violence masculine. Mais je trouve que c'est super pertinent sur est-ce que on peut hériter de la violence, est-ce que genre quand on essaie de s'éloigner de la violence, est-ce que finalement elle nous revient pas dans la tête aussi, parce que il faut, enfin, est-ce que essayer de s'éloigner à tout prix et ne pas analyser ça, bah ça nous fait pas finalement commettre les mêmes actes que ceux qu'on déteste en fait. Est-ce qu'on devient nécessairement ce qu'on veut éviter d'être à tout prix? Il y a vraiment une notion de destin, de tragique qui est très fort dans ce film, qui est très bien travaillé. Le rythme est super entraînant. Et il nous emmène à des endroits où on pensait pas qu'il allait nous emmener. Moi, je trouve que visuellement, c'est aussi très bien fait. En plus, du coup, on est dans l'univers un peu de la mode, enfin surtout au début, mais donc c'est un peu clinquant, etc. Puis ça le devient beaucoup moins en fait. Et je sais pas, je trouve que ça fait vraiment sens. Moi, c'est un film qui m'a séduite. Je trouve qu'il y a des questionnements très intéressants derrière. Après, évidemment, tout n'est pas rose, mais voilà, j'ai envie de vous garder juste le positif et vous conseiller donc, si vous ne l'avez toujours pas vu, d'aller voir Le Successeur, qui doit toujours être en salle, de Xavier Legrand. Voilà.
Merci beaucoup Juliette pour cette chronique qui donne complètement envie d'aller voir encore une fois le film. Je rajoute donc Le Successeur à ma longue liste de films à rattraper en salle actuellement. J'en ai pas mal. Et il est dorénavant temps pour moi de vous parler du film de cette semaine qui s'appelle Boléro. Du coup, Boléro, c'est un film d'Anne Fontaine. Donc, Anne Fontaine, c'est une réalisatrice française, actrice, scénariste, dialoguiste. Bon, elle a un peu tout fait dans le cinéma. Et on lui doit Les Innocentes, notamment en 2016, ou alors Gemma Bovary. Il me semble aussi qu'elle est dans le processus créatif de Coco Chanel, qui est un documentaire voilà, qui est réalisé par elle en 2009 avec Audrey Tautou. Et cette fois, elle s'intéresse à Maurice Ravel dans Boléro. Boléro parce que, évidemment, c'est l'œuvre phare de Maurice Ravel, qui est un tube littéralement de la musique classique qui dure 17 minutes. 17 minutes de répétition d'un même thème, quelque chose d'assez linéaire et assez prise de tête pour certains. D'autres y voient du chef-d'œuvre. Voilà. Bon, c'est un film, c'est un morceau qui a été repris à maintes reprises dans des publicités, dans des films, voilà, c'est une œuvre phare de la musique et l'idée c'est de savoir comment Ravel en est arrivé à composer ceci, ce qui est vachement intéressant en vrai parce que je n'avais aucune idée de ce qui était, de l'histoire derrière ce morceau-là, mais plus que de raconter l'histoire d'un morceau, c'est de raconter l'histoire de Maurice Ravel qui a été documentée par pas mal de biographies qui sont disponibles. D'ailleurs, le film donne envie de lire des biographies sur ce compositeur et globalement, je trouve que c'est un des points forts du film. Souvent, les biopics donnent quand même envie d'aller plus loin que l'overview qu'on a eu pendant 2 heures d'une personne. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur un biopic qui est assez convenu, qui est assez classique à l'image du thème du film, qui est quand même la musique classique. Et l'idée, c'est de mettre l'accent sur la vie privée de Maurice Ravel, de s'intéresser aux femmes qui sont derrière son génie. Présenter un artiste qui est encore une fois assez anxieux, assez troublé, perfectionniste et qui est littéralement en couple avec sa musique. Donc on a là encore des ressorts scénaristiques qu'on peut trouver dans des œuvres à propos de la création, comme par exemple Les Chaussons Rouges ou Black Swan, c'est de la danse, mais souvent des artistes qui vivent pour leur art et qui mettent un peu de côté leur vie privée ou du moins l'adaptent à 1000%. En fonction de leur activité professionnelle artistique. Donc voilà, l'idée c'est de s'intéresser à ça. Néanmoins, c'est vrai que malgré de très belles performances, on va noter notamment celle de Jeanne Balibar qui est impeccable d'excentricité dans le rôle d'Ida, qui est une chorégraphe qui veut mettre en scène le morceau de Maurice Ravel, qui lui fait en fait cette commande-là, qui va un morceau sensuel, qui exprime beaucoup de violence, de sexualité, etc. Elle lui demande un morceau comme ça, et c'est pour ça que Maurice Ravel va composer le Boléro de base, même si lui voit de la modernité. Malgré ses très belles performances, on a quand même un film qui est vraiment académique. Et je trouve que c'est assez dommage, parce que ça présente au final un Ravel qui, certes, est perfectionniste et autres, tous les adjectifs que j'ai dit tout à l'heure, mais qui est assez froid, qui est assez introverti, qui a des dialogues qui sont parfois ce que j'appelle surécrits. C'est-à-dire qu'en fait, ça manque d'hésitation quand il s'exprime. Je trouve que vraiment, limite, il est en train de lire le scénario qui lui a été distribué. Et c'est sans doute normal, c'est sans doute la direction d'acteur qui veut ça. Et je comprends totalement parce que l'idée, c'était d'avoir une œuvre assez propre à l'image de la carrière de Ravel, qui ne fait pas vraiment d'excentricité outre mesure et qui est assez académique, professionnelle. Dévoué à 1000% à son art et voilà, donc je pense que c'est voulu, cette écriture très travaillée, comme les plans sont très travaillés. On a une utilisation de symbolisme avec des portes, le fait de le filmer à son piano de manière assez proche, après assez intime. Voilà, on a une mise en scène qui est assez classique, qui est assez attendue. On a globalement les plans qu'on pensait voir dans ce film. Et c'est un peu dommage du coup parce que ça nous transporte pas. Je trouve que ça perd en aspect, il n'y a pas un côté passionnant dans le film parce que c'est assez lisse en fait, à l'image du personnage qui est assez lisse aussi et qui je m'attendais pas à avoir un personnage pour une fois d'ailleurs c'est plutôt bien, un personnage extravagant qui est totalement rongé par son désir de création, etc. Mais à l'inverse, on a un personnage qui est peut-être un petit peu trop plat. Voilà. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Même si je trouve qu'il y a des moments de la vie, notamment des moments de stress vis-à-vis de la création qui sont assez bien, assez bien menée. Ça m'a fait un peu penser à Un homme idéal, quand par exemple Pierre Niney, là, le personnage de Pierre Niney, doit écrire forcément un livre et il ne trouve pas du tout d'inspiration. Bah là, on a un peu cette angoisse de la deadline. Et je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent au cinéma, alors que c'est quelque chose que dans la vie, on expérimente beaucoup. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une œuvre qui se veut contemplative, mais qui en finit par être répétitive, malgré, comme je le disais, de beaux moments. Et contemplative, mais avec une photographie que j'ai trouvée parfois aussi hésitante, et c'est là où j'en veux un peu au film, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont placés dans l'ombre, il y a des scènes qui sont, voilà, qui sont filmées parce qu'il y a eu dans une ombre qui ne convient pas, dans une lumière qui ne convient pas, parce que je pense qu'il n'y a pas eu assez de travail sur... sur la construction, sur le placement, le cadrage. Voilà, c'est bête, on est sur une scène, mais on va pas choisir la rue, enfin l'angle de la rue où il y a le mur qui fait de l'ombre, quoi. Et là, c'est un peu ça. Dans ce film-là, c'est bête parce que c'est un peu le béaba de la mise en scène. On met les personnages dans la lumière ou alors on crée un contraste dans voilà, le fait d'être à contre-jour, mais là c'est pas forcément voulu et ça se voit parce que du coup bah, on est au cinéma et on a la qualité optimale de visionnage et pourtant je trouve qu'il y a des scènes qui étaient juste pas très belles parce que juste pas bien mise en scène en fait, c'est bête, mais voilà. Donc là j'en veux un peu parce que c'est des choses qui en changeant un tout petit peu la caméra de place auraient pu être réglées, donc c'est dommage. De même, voilà, le symbolisme est parfois un peu trop appuyé avec l'utilisation des portes. Après, il y a le travail de l'usine qui inspire le rythme saccadé du morceau Boléro qui se veut incarner littéralement la modernité. Donc voilà, c'est un peu souligné, je trouve, à plusieurs moments. Surtout que cette scène de l'usine vient au début et revient à la fin. Ce que j'ai trouvé un peu dommage aussi, c'est la scène d'ouverture qui nous propose littéralement le Boléro et son interprétation dans pas mal de films, pas mal de publicités, pardon, et plusieurs interprétations, pas forcément publicité, mais voilà, plusieurs interprétations de ce morceau-là. Et je trouve que c'est dommage parce que finalement, le film, on y arrive et on se dit, ah ben, on connaît forcément le Boléro, on l'a peut-être pas forcément en tête, et on se dit, bah, tout le film va petit à petit nous faire découvrir, redécouvrir l'œuvre. En faisant arriver ce Boléro, mais pas à pas, dans sa construction. Et là, c'est dommage de l'entendre dès le début, je trouve. Donc ça, c'est un peu dommage. Autre remarque, je trouve que des fois, il y a un travail qui n'a pas assez été fait. Il y a un travail qui n'est pas vraiment fait sur les autres morceaux de Ravel. On entend le Boléro, on entend par-ci par-là quelques autres morceaux, mais c'est pas pour autant qu'on a les morceaux préférés de Ravel qui nous sont présentés, des morceaux qu'on n'aurait peut-être pas entendus, parce que c'est vrai qu'il est connu pour ce Boléro, et d'ailleurs il disait que c'était dommage qu'il soit connu que pour ça, et que forcément bah, ça en venait à détester le morceau, tellement il lui avait volé la vedette en soi, et il avait pris le dessus sur l'ensemble des autres morceaux. Mais on n'entend pas justement dans ce film d'autres morceaux, donc c'est un petit peu dommage, voilà. Mais sinon, c'est un film qui, dans son aspect théorique, dans sa note d'intention, je dirais, est vachement intéressant, quoi, parce que le sujet est intéressant, parce que l'idée d'aller dans le privé de ce Maurice Ravel, qui finalement n'avait aucune relation avec aucune femme de manière charnelle, mais qui était uniquement dans des relations amicales ou d'inspiration, de création et autres, et pas du tout de manière charnelle, ce qu'on n'a pas forcément dans tous les biotifiques, qui justement mettent l'accent sur la vie privée très intense de leurs artistes. Bah là, c'est vrai que c'était assez intéressant. Donc voilà. Mais c'est un film que je conseille, peut-être pas forcément au cinéma, mais si vous tombez un jour dessus, pour avoir un avis, pour voilà, vous intéresser au personnage et forcément avoir envie ensuite de lire des biographies sur le sujet. Du coup, je laisse, pour faire une pause dans mon long monologue, Alix présenter son coup de cœur de la semaine et je reviens ensuite pour vous parler rapidement de Ferrari, de Michael Mann.
Alors, moi, pour mon coup de cœur de la semaine, je vais vous parler de la série polonaise 1670, qui a été réalisée par Jakub Rusilio, je vais sans doute mal le prononcer, et qui est disponible sur Netflix. On suit, en fait, le quotidien de Jan Paul, un noble propriétaire d'un tout petit village en Pologne, qui rêve de marquer l'histoire de son pays en gravissant tous les échelons. Au lieu, en fait, de suivre sa quête épique du pouvoir, on va juste assister à des... des querelles un petit peu stupides entre les membres de sa famille, les villageois, les paysans, les chefs de village voisins, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, en fait, ben, 1670, c'est une comédie satirique qui va se moquer ouvertement de la noblesse polonaise de l'époque et qui va tacler au passage ben, les conservateurs d'aujourd'hui qui font référence à leur passé glorieux en soulignant que... ben, y avait des nobles qui ne savaient pas lire, qui étaient crédules, farfelus, et qui n'avaient absolument pas conscience de ce qui se passait dehors dans leur village. Donc je trouve ça assez, assez génial. La critique, outre la critique qui est particulièrement efficace et décalée, ben, c'est une série qui reste très agréable à regarder. C'est pas juste une critique. Donc c'est humoristique, il y a un petit peu de romance, il y a un petit peu de rebondissement, même si le but en lui-même c'est pas de faire une série d'action, on arrive quand même à s'attacher au personnage et on a envie de savoir la suite quoi. Moi je trouve que la série elle se situe un petit peu entre South Park et The Office, parce qu'on retrouve la satire sociale, le ridicule un peu trash, et la dynamique un peu de fausse télé-réalité avec la caméra qui bouge un petit peu comme dans The Office et qui fonctionne encore mieux de par le décalage avec l'époque puisqu'on est quand même au XVIIe siècle. Donc je trouve ça très très cool. Donc 1670, ouais, c'est une série qui se regarde rapidement et vraiment sans prise de tête et qui finira par vous surprendre.
Bien, merci beaucoup Alix pour cette critique, cette chronique sur une série. C'est vrai que c'est toujours important d'avoir des séries à regarder et qu'avec le nombre de choses disponibles sur les plateformes, on ne sait que choisir, on a l'embarras du choix. Et c'est compliqué voilà, d'avoir des retours honnêtes sur les œuvres qu'on visionne et qui ne soient pas choisies par des intelligences artificielles ou des algorithmes de Netflix. Donc, pour ma part, je vais terminer cet épisode avec un retour assez rapide, hein. Je vous préviens, je ne vous garde pas beaucoup plus longtemps, sur Ferrari, depuis le temps que je tease cet avis depuis le début de cet épisode. Donc, Ferrari de Michael Mann, c'est sorti vendredi sur Prime Video, c'est sorti alors même qu'on ne s'attendait pas à voir un film de Michael Mann si tôt dans l'année. Donc, pour rappel, c'est un réalisateur qui a fait Collatéral, notamment avec Tom Cruise et Denzel Washington, me semble-t-il. Le Dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis. It avec Robert De Niro, aka le meilleur acteur sur Terre. Je suis totalement, totalement biaisée quand je dis ça, parce que je suis vraiment dans une période De Niro, je conseille vraiment tous ses films. Et donc il a sorti aussi Miami Vice que je n'ai pas vu mais qui paraît-il est un très bon film. C'est un réalisateur qui est assez efficace je trouve, donc il fait des œuvres qui nécessitent d'être revisionnées, c'est ça qui est assez agréable, qui sont souvent très symboliques, qui sont en même temps assez axées sur les sens. C'est toujours assez violent, très bien travaillé au niveau de l'émotion, la tension. Donc voilà, et des œuvres dans lesquelles la mise en scène est très, voilà, très travaillée, la photographie est toujours impeccable. Voilà, c'est des œuvres vraiment voilà, d'une beauté esthétique assez rare. Donc Ferrari ne déroge pas à ce cinéma-là et j'ai beaucoup aimé esthétiquement notamment Ferrari qui est un biopic sur Enzo Ferrari. Un biopic assez original et en même temps assez classique parce que ça reprend encore une fois un moment critique de la vie d'une personne. Là ça se concentre sur un an, voilà, 1957. On avait par exemple Spencer il y a quelques années qui se concentrait sur 3 jours de la vie de la princesse Diana. Et là l'idée c'est vraiment de montrer Enzo Ferrari dans un moment critique où l'entreprise doit faire des choix de réorganisation, savoir si elle se fait racheter, si elle entre en collaboration avec une autre entreprise italienne et autres. C'est un film où Adam Driver est impeccable, littéralement. C'est vrai qu'on avait déjà vu que c'était un acteur incroyable. Moi, j'avais beaucoup aimé de Ridley Scott, même si Ridley Scott, j'aime pas tout ce qu'il fait, notamment Napoléon. Voilà. Mais il avait joué dans Le Dernier Duel et je l'avais trouvé impeccable. Même si j'avais pas beaucoup aimé Annette, j'avais trouvé sa performance incroyable. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Dans Marriage Story, il était fou. Et là, dans Ferrari, il est parfait, tout en sobriété à des moments, assez droit, et en même temps d'une sensibilité assez surprenante parfois. Et donc, il est à la tête de cette entreprise avec sa femme, qui est interprétée par Penélope Cruz, qui est elle aussi, bon, qui n'a plus rien à prouver, mais qui est incroyable dans ce film-là. Et l'actrice de Divergente, Shailene Woodley, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps dans le cinéma, qu'on avait vu dans Nausicaa le contraire aussi. Mais donc voilà, un casting quand même de haut vol, parce que Shailene est assez forte aussi, elle a moins de scènes que forcément les deux autres, mais je l'ai trouvé assez incroyable dedans. Et le film est plastiquement magnifique, j'ai trouvé que la direction artistique était merveilleuse. On ne voit pas forcément que des voitures du tout, hein. Voilà, l'idée c'est de se concentrer sur l'homme plus que sur l'activité principale automobile, mais c'est un film qui arrive à avoir un rythme assez prenant, à avoir des plans qui prennent parfois leur temps mais sont contemplatifs, ils sont extrêmement beaux, extrêmement travaillés, assez lisse mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire assez propre. C'est un film c'est un film très propre, très cadré, beaucoup beaucoup de symbolisme par rapport à ses autres œuvres, j'ai trouvé, enfin plus que d'habitude, parce que forcément le thème biopic et l'approche biopic nécessite d'aller plus dans la psychologie. Donc là forcément on a l'utilisation par exemple d'un miroir, ce qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres, mais voilà, un homme tiraillé entre deux vies en quelque sorte. Et c'est vraiment le film alterne entre ces deux vies là, sa vie avec son ancienne sa femme et la vie avec sa maîtresse. Et je trouve que c'est assez bien fait parce que tout le scénario est entre ces deux strates là et montre cette incapacité à vraiment construire ces deux vies de manière solide de part et d'autre, et cette nécessité à faire un choix dans une période qui est en elle-même très critique, puisque l'entreprise est elle aussi en voie de cristallisation. Et voilà, donc c'est vraiment dans la forme un super film qui a fait les bons choix, je trouve, dans son scénario, qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à raconter, qui présente un personnage qui est pas du tout dans le cliché, je trouve. Enfin, je m'attendais à un personnage beaucoup plus cliché, beaucoup plus énervé, beaucoup plus colérique, peut-être encore plus perfectionniste. Et là encore, comme dans Boléro, finalement on a un personnage assez droit qui essaie de dépatouiller de sa situation, même si effectivement il a plein de défauts. C'est une catastrophe dans sa gestion de la vie privée, notamment dans cette incapacité à ne pas faire souffrir le monde qui l'entoure. Et en même temps on a une personne qui a souffert puisqu'elle a perdu son fils, donc il y a des choses à raconter, et Ferrari le fait très bien. Néanmoins il y a quelques moments où c'est peut-être un peu long. Je trouve que le film, ne cherchant pas à suivre vraiment une course ou cherchant un objectif très défini, des fois ne sait plus exactement sur quel pied danser. On sait pas si on doit se concentrer sur son histoire d'amour, sur finalement sa capacité à essayer de porter secours à son entreprise et autres. Donc le spectateur peut être un peu perdu, mais je pense que c'est tout l'intérêt du film aussi de pas pouvoir le saisir de manière entière et globale. Et je pense que ça donne envie de revoir le film aussi. Il y a des scènes saisissantes, des scènes de vitesse. Je trouve que la manière dont sont montées les scènes d'action, donc de course automobile en elle-même, hein, sont incroyables. On avait ça un petit peu dans Le Mans 66, que j'avais trouvé assez passionnant, mais là c'est encore plus, c'est-à-dire que c'est un montage sec. On avait déjà ça dans Collatéral avec l'utilisation de la voiture et tout, et là je trouve que dans Ferrari ça se cristallise et c'est très beau à voir. C'est très rapide, c'est intense, ces scènes-là sont vraiment des bangers absolus, de pure technique je parle. Mais après, je trouve que le personnage est assez intéressant. Il manque peut-être un petit peu d'aspérité, ou du moins, on a envie d'en savoir plus, donc on reste un peu sur notre faim. Mais je pense que si c'était allé au-delà, on aurait trouvé ça caricatural. Donc en fait, c'est un bon équilibre qui nous frustre un petit peu, et en même temps, on nous donne envie de revoir le film pour se dire, en fait, j'ai peut-être pas décelé entièrement toute la psychologie du personnage. Donc voilà pour Ferrari, je conseille, en réalité, je conseille. C'est un petit peu dommage de pas pouvoir le voir en salle, parce que forcément, ces scènes magnifiquement mises en scène, c'est dommage de le voir sur un petit écran. Après voilà, l'idée c'est de maximiser son visionnage en laissant de côté son téléphone et en essayant de baisser au maximum la lumière aussi chez soi et de rapprocher un maximum de son écran d'ordinateur, ou du moins avoir une télé pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir une. Je pense que c'est vraiment, vraiment le mieux, mais un peu dommage que certains films comme Ferrari sortent uniquement sur des écrans. Mais ne regardez pas ces films sur un téléphone, c'est interdit. Donc voilà, un énième conseil de la part de notre équipe de Popcorn. On espère que cet épisode vous aura plu et on revient très vite, notamment la semaine prochaine, avec un autre épisode et d'autres conseils cinématographiques. En attendant, une très belle semaine à vous et encore un grand merci.